La revanche du passé, chapitre 3. Depuis l'aube, ce jour-là, bien qu'avril commençât à peine, une chaleur orageuse pesait sur l'atmosphère. Quelques semaines de sécheresse avaient ouvert trop tôt l'air du printemps, et le vent qui venait de se lever roulait en rafale des torrents de poussière, les poussant obstinément vers le nord. Le ciel s'était enfin couvert. Il était d'un gris épais, pesant. Madame Georges, assise seule près de la fenêtre, écoutait l'ouragan faire battre autour d'elle toutes sortes de choses invisibles. Un des volets du salon s'ouvrait et se fermait tout près d'elle avec un bruit sec, persistant, sans qu'elle cherchât à s'expliquer d'où venait ce vacarme. Elle restait absolument distraite, suivant d'un œil vague les tourbillons de poussière blanche que la bourrasque soulevait et emportait sur son passage. Elle était si absorbée qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Elle tressaillit au bruit d'une voix résonnant tout près d'elle. « Cette fois, madame, disait Gertrude, c'est pour tout de bon, nous aurons de l'eau. » Tout en parlant, la servante s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit et fixa solidement le volet à son crochet. De grands nuages aux formes bizarres, curieusement déchiquetés, se succédaient en courant sur le fond livide du ciel, et des choses légères passaient très vite devant les fenêtres, brindilles arrachées aux arbres, éclats d'ardoises volant des toits, tous les menus débris amassés au coin des gouttières que la tempête éparpillait sous son coup de balai. Tout à coup, une épaisse nuée basse, très noire, roula sur les autres et les couvrit. Toute la lumière blafarde du ciel s'obscurcit, s'éteignit. Il faisait presque nuit. Madame Georges se retourna. « Où est Élisabeth ? » dit-elle d'une voix mal affermie. « Je ne l'entends plus du tout. » La figure satisfaite de Gertrude se tendit aussitôt. Elle répondit d'un ton bref « Je ne sais pas. » Et un silence suivit, comme si la seule mention de ce nom eût fait naître entre les deux femmes une gêne qui enlevait tout intérêt aux petites péripéties de la vie. Pendant tout le long hiver qui venait de s'écouler, Madame Georges avait en vain cherché, à l'attitude malveillante de Gertrude envers Élisabeth, une explication quelconque qui lui permit de concilier cette dureté d'âme vis-à-vis de l'enfant et l'extraordinaire dévouement qu'elle-même, depuis son malheur, avait trouvé chez cette femme. Il lui était impossible de découvrir la cause cachée de cette antipathie tenace. Elle avait espéré qu'une intimité fermée à tout contact extérieur, à l'abri des anciens soucis dévorants, aurait raison de cette injustice, sans qu'elle eût besoin de réclamer sur ce point délicat des éclaircissements plus directs. Mais chaque jour accentuait au contraire davantage entre ces deux êtres liés à sa destinée la mésintelligence inexplicable. Restée incompréhensible à sa raison, cette division sourde établie à son foyer devenait tous les jours pour son cœur plus vexatoire, plus blessante. Elle ne pouvait plus la supporter. Si seulement l'animosité mystérieuse s'était trahie quelquefois par des mots, manifestée par des faits, la mère eût vite démêlé d'où venait le mal. Elle aurait eu alors un rôle défini à jouer, un point de départ assez sûr pour ne pas risquer d'aller s'égarer dans de dangereuses manœuvres. Mais il n'y avait jamais d'échange de paroles entre Élisabeth et Gertrude. Et au sortir de ses longues méditations, Madame Georges allait toujours se buter à la même conclusion. « Quoi qu'il arrive, je ne peux pas renvoyer Gertrude. Elle doit rester avec moi. » Elle se leva. Depuis qu'elle avait quitté sa vie laborieuse, il arrivait très rarement qu'Élisabeth ne fût pas avec elle. Il ne fallait pas laisser échapper ce moment fugitif. Il fallait, coûte que coûte, arracher sur le champ la vérité à Gertrude. Elle tourna son visage de façon à ce que Gertrude ne la vît pas, et elle resta un moment rêveuse. tant de choses qui dormaient depuis longtemps dans le silence, et en apparence dans l'oubli, allaient être remuées au fond de leur tombeau. Tant de choses auxquelles elle aurait voulu ne jamais, jamais penser, qu'elle avait cru anéanties, effacées de toutes les mémoires. Étouffant le son de sa voix, afin qu'Élisabeth ne pût pas, de la chambre voisine où elle l'entendait aller et venir, saisir le bruit des paroles, elle dit enfin avec effort. « Pourquoi ne pas aimer l'enfant comme la mère, Gertrude? Ce n'est pas juste, c'est mal. Pourquoi ?» La servante tressaillit. Rien ne l'avait préparée à cette question, et son esprit surpris ne lui dictait aucune réponse. Il lui sembla sentir le souci aux grandes ailes noires qui, si longtemps jadis, avaient plané lourdement sur la tête de sa maîtresse et sur la sienne, lui frôlaient le visage au milieu de la sécurité des derniers temps. Elle resta un moment muette, tourmentant les deux mains noueuses et fidèles qui avaient servi une cause étrangère dans une abnégation illimitée. Depuis le jour où Madame Georges l'avait presque rudoyée devant Élisabeth, lui donnant des ordres comme à une servante ordinaire que son gage achète, elle s'était efforcée de dissimuler l'invincible répulsion qu'elle éprouvait pour la preuve vivante du malheur de sa maîtresse. Pour cette Élisabeth, que toute petite, elle avait éloignée d'elle par sa froideur, et qu'elle jugeait aujourd'hui sournoise, perverse et dangereuse. Son changement d'attitude voulu, si difficile à soutenir, n'avait donc pas atteint le but. Il n'avait pas suffi à tromper la mère. Elle répondit enfin, sans lever les yeux sur sa maîtresse. « Elle vous a fait trop de mal pour que je puisse l'aimer. N'est-ce pas à cause d'elle que... » La mère l'interrompit vivement, suffoquée. « Elle m'a fait trop de mal à moi ? Elle ? À moi ?» Et elle resta anéantie devant cette injustice qui frappait à côté d'elle la tête innocente et osait s'affirmer tout haut. Si Gertrude était capable de cette iniquité, que feraient donc les autres, ceux du dehors, qui n'avaient rien vu du drame de sa vie, qui la jugeraient froidement, sans tenir compte de ce qu'elle avait souffert pour goûter la joie unique de posséder Élisabeth. Punir Élisabeth, sa petite Élisabeth palote et souffreteuse, dépourvue de toutes les gaietés de son âge. Mais c'était inouï, c'était monstrueux ce déplacement de justice. « Et moi qui croyais ? » murmura-t-elle amère. « Oui, je croyais que le jour de l'oubli était venu, et que je pourrais enfin... Et pendant ce temps, à côté de moi, un souvenir impitoyable distillait du fiel. Contre qui ? Contre la mère malheureuse ? Non, contre l'enfant. Mais je ne pourrais pas supporter cela, moi. Tout le reste, mais pas cela. Non. » En prévoyant pour l'avenir un jour de crise, Gertrude ne l'avait jamais imaginé sous cette forme. Ce n'était pas elle qui jouait un rôle dans le drame étroit qu'elle avait conçu. Elle n'avait jamais anticipé une lutte à livrer à ses propres instincts. Aimer cet enfant du mal, soupçonneuse et cachée, jamais. Mais mentir tous les jours patiemment pour dissimuler à la mère son aversion, oui. « Est-ce que je pouvais deviner, moi ? » dit-elle enfin à voix basse. « Eh bien oui, je l'aimerais. Est-ce que je pouvais deviner ?»« Deviner ? Qu'y avait-il là à deviner ? Était-il possible que quelqu'un parlât de deviner en face de circonstances si limpides qu'aucun suspense d'esprit n'était admissible ? » Le cœur de la mère se gonfla à éclater. Si dans la mémoire de cette femme obscure, qui sans jamais faire allusion à son abnégation, lui avait sacrifié sa vie, la goutte empoisonnée s'était conservée assez intacte pour qu'elle la lui versât aujourd'hui de cette façon cruelle. Quelle destinée de pesante solitude attendait donc son enfant au milieu des hommes ? Elle refoula énergiquement l'amertume qui lui montait aux lèvres, tandis que devant ses yeux, toutes les heures mornes que Gertrude avait patiemment vécues à côté d'elle déployaient leur terne cortège interminable. Elle se souvint de son arrivée désolée dans la grande ville inconnue, sans autre appui que la présence de cet associé volontaire à sa lamentable destinée. Jamais, pendant le long temps d'épreuves où la lutte avec les difficultés matérielles rendait la vie si dure, Gertrude n'avait eu un mot de plainte. Elle s'était enfermée, silencieuse, dans son laborieux dévouement, sans jamais faire allusion à la cause d'une existence sans joie, faite d'efforts et de privations. Peu à peu, grâce à ce silence, le souvenir détesté s'était presque endormi au cœur de Madame Georges. L'image de l'homme qu'il avait abandonné à l'expiation solitaire d'une heure de surprise, de sombre folie, cette image que les traits d'Élisabeth rappelaient si vivement, n'avait plus fait courir dans ses veines qu'un froid mépris silencieux. Et jamais aucune tiédeur où palpita quelque vestige de l'amour tronqué de sa jeunesse n'avait plus agité son sang. Trompée par le silence absolu de Gertrude, elle avait fini par oublier, presque entièrement, la participation d'une autre à son secret. Et voilà que tout à coup, le fait détesté se dressait tout vivant, lui criait son existence continue. À côté d'elle, dans un esprit étranger. Pas un jour Gertrude n'avait oublié le passé. Non, pas un seul. Installée à son foyer même, elle trouvait l'humiliation la plus amère. Mais aussi, elle ne pouvait pas l'oublier, la plus généreuse tolérance. Sa poitrine se souleva comme si elle allait pleurer, mais elle refoula ses larmes. L'œil soupçonneux d'Élisabeth aurait découvert sur ses joues la trace humide. Il ne fallait pas que l'enfant devinât rien de son émotion. Elle fixa un moment sur Gertrude un regard noyé qui semblait dire « Je voudrais parler, mais je ne peux pas ». Puis brusquement, elle se décida. Elle saisit dans les siennes la grosse main dure qui seule s'était tendue à l'heure de la honte et elle murmura « Merci. » En ce moment, une ligne bleue lacéra l'épais nuage noir et presque aussitôt un craquement violent secoua les vitres. La pluie, légère jusque-là, s'abattit tout à coup en masse compacte. L'eau bondissait sur l'appui des fenêtres, rejaillissait en éclaboussures, se précipitait en cataractes sur le pavé. En un clin d'œil, la rue déserte fut un ruisseau débordant et fangeux. Élisabeth entra vivement. « Oh, maman !» Elle s'arrêta net sur le seuil et y resta clouée, immobile. Madame Georges et Gertrude s'étaient brusquement séparés, mais l'œil prompt de la jeune fille avait saisi le groupe intime près de la fenêtre. « Toute cette eau !» dit Gertrude en regardant dehors. « Cela va faire du bien !» Et sans jeter les yeux sur Élisabeth, elle s'esquiva. Aimer cette créature sournoise qui entrait sur la pointe des pieds pour espionner sa mère, jamais. La jeune fille était allée s'asseoir sur le canapé, mais en voyant sa mère se diriger de son côté, elle se leva vivement et elle alla coller son front à la vitre, le dos tourné. Madame Georges la suivit, l'interrogeant sourdement. Élisabeth ? Le front toujours collé à la vitre, la jeune fille resta un moment silencieuse, puis elle demanda froidement. « Je voudrais bien savoir pourquoi je m'appelle Élisabeth. » « Quelle singulière question ! » dit Madame Georges d'une voix contenue. « Est-ce que tu n'aimes pas ton nom ?» Élisabeth regardait toujours l'eau se précipiter en avalanche sur le sol. « Je ne sais pas, » dit-elle enfin, du même ton froid. « Cela m'est égal. Je ne sais pas ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Je me fatigue à penser à beaucoup de choses. »« Tu te fatigues à penser à beaucoup de choses ?» répéta la mère surprise. Puis une inquiétude la mordit, elle répéta. Pourquoi peux-tu penser qu'il te fatigue ainsi, Élisabeth ? Les yeux noirs, soupçonneux, se tournèrent vers la mère, et Élisabeth dit sèchement « À Gertrude !» Tout de suite, Madame Georges comprit. Au moment où Élisabeth était entrée, Gertrude s'était brusquement rejetée en arrière. Elle-même avait obéi à un instinctif mouvement de recul. Élisabeth, avec son œil avide, avait saisi la double impulsion et lui avait donné un sens. Mais lequel ? « Tu me caches quelque chose, Élisabeth, » dit-elle doucement. « Pourquoi ai-je perdu ta confiance ? Il y a si longtemps que je l'ai perdue. Mais pourquoi ?» Et elle posa ses mains sur les deux épaules fluettes, s'efforçant de rencontrer le regard fuyant. Élisabeth se dégagea. Les traits maladifs exprimaient la souffrance. « Écoute-moi, Élisabeth, » reprit la mère à voix basse. « Non, pas ainsi, regarde-moi. » Et elle prit entre ses mains le visage pâle, le força à se montrer et continua. « Dis-moi ce que j'ai fait pour perdre ta confiance. Est-ce à cause de Gertrude ? Parce que tu ne l'aimes pas ? Est-ce à cause de cela ? Dis. » « Parce que je ne l'aime pas ? » protesta Élisabeth. « C'est elle qui m'a toujours haïe. Et pourtant, toi, tu l'aimes. » « Depuis que tu es au monde, » dit Madame Georges, pensive, « Gertrude ne m'a jamais quittée. Nous avons passé ensemble des jours difficiles, et elle est restée à côté de moi sans se plaindre. Elle m'a tout sacrifié. Je ne peux pas oublier cela, comprends-tu ? » Elle t'a tout sacrifié, répéta Élisabeth lentement. Et moi, toute petite, elle me haïssait déjà. Et toi, tu l'aimais. Madame Georges passa son bras autour de la taille grêle et sèche, et entraînant Élisabeth, elle la fit asseoir à côté d'elle sur le canapé. Mais elle n'osa pas l'attirer sur son cœur. L'inconnu que cachait cette âme inquiète, cet ennemi mystérieux qu'elle ne parvenait pas à démasquer, était revenu prendre sa place offensive vis-à-vis d'elle. Elle n'arracherait dans ce moment à Élisabeth aucun signe extérieur de sensibilité. Non, tous ses efforts échoueraient, se briseraient contre la volontaire inertie de son enfant. « Quand tu es entrée tout à l'heure, » reprit-elle enfin après un silence, « Gertrude et moi parlions des jours d'autrefois, des jours malheureux. Cela n'arrive jamais. C'est la première fois depuis que tu es entre nous. C'est cela qui t'a fâché, de la voir ainsi avec moi ? C'est cela, n'est-ce pas ? » Élisabeth hésita. « Cela, » murmura-t-elle enfin. « Oui, cela, et autre chose. » « Cela est autre chose, » répéta la mère lentement. Elle resta un moment pensive, puis elle reprit. « Cela est autre chose. Tu observes ta propre mère d'un œil malveillant, et puis tu penses. Ce n'est pas ton esprit qui est malade, c'est ton cœur, Élisabeth. » Et retirant le bras qui entourait la longue taille sèche, elle resta un moment silencieuse, l'âme torturée d'une appréhension affreuse. Était-il possible qu'un jour vint où Élisabeth fût sans pitié et la condamna avec l'implacable rigidité de la justice? Au bout d'un instant, elle reprit avec effroi. « Renvoyer Gertrude à l'heure où la vie est devenue plus facile est un acte odieux. Pourtant, si tu veux, pour que tu aies la paix, je dirai à cette femme qui s'est usée pour moi, « Allez ailleurs. » Seras-tu satisfaite ainsi ?»« Pour me satisfaire, » protesta Élisabeth, « commettre un acte odieux ?» Et tout de suite, l'exagération de tendresse dont elle était l'objet la blessa. Elle reprit tremblante, « D'ailleurs, ce n'est pas ça. C'est... » Mais incapable d'exprimer par des mots l'obscur malaise qui la tourmentait depuis sa toute petite enfance, et dont elle retrouvait la fatigue alliée à ses plus lointains souvenirs, elle fondit en larmes. Les deux bras de la mère la saisirent nerveusement. « Élisabeth, ma chérie, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as ?» Et, oubliant le froissement que les paroles étranges et l'attitude presque agressive d'Élisabeth venaient de lui infliger, Madame Georges se mit à la bercer de mots tendres, apaisants. Sa tête appuyée à l'épaule de sa mère, la jeune fille se calma peu à peu. En voyant la figure maladive reprendre sa blancheur de cierge, Madame Georges eut tout à coup l'idée qu'un désordre physique pouvait bien être la cause des continuels changements d'humeur qui les tourmentaient toutes les deux. Elle accueillit cette supposition avec joie. Auprès de la lutte obscure, où elle sentait tous les jours plus nettement qu'elle ne pouvait intervenir d'une façon décisive qu'en mettant en lumière le détestable passé, que serait la découverte de quelques misères du corps à combattre par des moyens extérieurs? Elle triompha de son instinctive aversion à introduire chez elle une figure étrangère, et tandis qu'au dehors l'orage s'apaisait et qu'elle sentait contre sa joue le front brûlant d'Élisabeth, elle se décida à demander sur son état singulier quelques éclaircissements. Elle se souvint avoir écouté souvent la locataire d'en haut, dont elle entendait les enfants courir au-dessus de sa tête, lui parler avec éloge d'un habile médecin qu'il avait soigné à la naissance difficile de son cadet, crise dangereuse dont elle n'était sortie que par miracle. Dès le lendemain, malgré sa répugnance à demander quoi que ce fût à des étrangers, elle enverrait Gertrude chercher auprès de cette femme l'adresse du médecin. Il fallait qu'elle fût guidée dans les soins que réclamait la santé d'Élisabeth. Elle ne pouvait plus se fier à sa seule sollicitude. Désormais, l'intervention d'un secours du dehors était indispensable. Aussitôt qu'elle eut assez raisonné sa décision pour la rendre inébranlable, le calme rentra dans son esprit. Elle eut devant elle une perspective nouvelle qui prit toutes ses pensées. Chapitre 4. Le surlendemain, Madame Georges accompagnait sur le palier un petit homme grisonnant, les cheveux en brosse, à l'allure vive et impatiente. « De l'anémie, » déclarait-il. « Rien de grave. » Au bruit des voix, la locataire d'en haut, qui avait aperçu dans la rue le coupé du docteur, était venue au-dessus de l'escalier, et elle se penchait sur la rampe pour bien entendre. Madame Georges, aux paroles rassurantes du docteur, respira. En voyant cet inconnu se pencher sur Élisabeth avec tant d'attention, une poignante inquiétude l'avait saisie. Une peur affreuse de découvrir chez son enfant quelque mal sérieux, véritable, quelque danger défini menaçant sa vie. Le médecin répéta « Non, rien de grave pour le moment, à moins que cette excessive pauvreté du sang ne vienne d'un travail de l'esprit, d'une constante préoccupation pénible. » Le visage de Madame Georges s'empourpra. Elle sentit tout son sang monter à ses joues. Le médecin, étonné de cette brusque émotion, ajouta d'un ton bref « Il faut avant tout la satisfaire. » Tout de suite, sous la sollicitude excessive, cet œil étranger avait perçu, entre cette mère et cette fille, un désaccord, un antagonisme transparent. Élisabeth s'était montrée presque récalcitrante à son examen. Elle n'avait pas une seule fois desserré les dents. Il ajouta froidement, « Oui, il faut la satisfaire. Ou moi, je ne réponds de rien. » Et il s'en alla, sûr d'avoir touché juste dans sa banale supposition. Cette belle blonde rousse exerçait certainement sur sa fille une de ses pressions maternelles sans entrailles. Dès qu'il eut disparu, la voisine descendit, pressée d'avoir, sur l'état d'Élisabeth, des détails précis. « Ce n'est rien, » balbutia Madame Georges. « Un peu d'anémie, rien de grave, merci. » et elle regretta d'avoir entrouvert l'enceinte fermée où elle vivait avec sa fille. Par cette brèche étroite, une curiosité étrangère était entrée et serait toujours aux aguets autour d'elle. Pensive, elle rentra chez elle, tenant entre ses doigts une feuillée volante avec une ordonnance griffonnée au crayon. Au moment où elle allait franchir le seuil, ses yeux tombèrent sur la plaque de cuivre que Gertrude entretenait, toujours brillante, à côté de la sonnette, et elle y lut les trois mots gravés en noir, tout au long. « Madame, veuve, Georges. » Toute son honorabilité vis-à-vis du monde tenait sur ce feuillet de cuivre, dans trois mots qui, tous les trois, mentaient. Elle frissonna de la tête aux pieds, comme si son sang se glaçait tout à coup devant ce mensonge banal qui avait abrité sa vie de l'ignominie, et qu'un jour, l'œil dessillé d'Élisabeth lirait librement sur ce bout de métal. Cachera jamais la vérité? Non, cela était impossible. Mais si elle pouvait reculer l'heure effrayante, longtemps encore, jusqu'à ce que la confiance d'Élisabeth fût assez solide pour que rien au monde ne pût l'ébranler. Elle hâta le pas. L'affreuse prophétie du docteur sonnait si menaçante à ses oreilles qu'elle s'attendait presque à la trouver déjà en voie de réalisation, et Élisabeth appelée à payer de sa propre vie la dette d'une autre. Au moment où elle franchissait le seuil, Élisabeth se leva. La mère demanda « Où vas-tu ? »
« Dans ma chambre un moment, je reviendrai. »
Madame Georges n'essaya pas de la retenir. Elle resta seule dans le demi-jour crépusculaire. Elle avait vu sur le visage énigmatique et pâle d'Élisabeth l'expression agressive qu'elle connaissait si bien, et elle redoutait plus que tout le reste ce tête-à-tête distant où l'âme de sa fille lui échappait absolument. Elle se mit à réfléchir, en regardant très loin, dans le bleu pâle du ciel, s'allumer les premières étoiles vacillantes. Puis, à mesure que les ténèbres s'épaississaient, toutes les autres, les grandes et les petites, une à une. Toutes les réalités douloureuses de sa vie s'adoucissaient. Même sa souffrance actuelle perdait quelque chose de son acuité rongeante en face de la paix profonde qui descendait du ciel. Ce qu'il y a d'éphémère, même dans les grandes douleurs inconsolables, n'était-il pas écrit en lettres de feu sur cette voûte brillante où, de siècle en siècle, le même spectacle éternel se déroule quelques jours sous l'œil de fuyantes générations? Il lui sembla peu à peu que l'épreuve de son passé, aussi bien que l'ardente appréhension de quelque chose de pire la menaçant de tout près, pour demain, allait se noyer, se dissoudre, s'abîmer, comme de chétifs et insignifiants accidents, au milieu de la paix superbe de la fête nocturne. Elle se dessaisissait d'elle-même, dans une de ces courtes minutes de communion avec la nature, où jette l'abandon passager de tout espoir défini. Un moment, son âme, désemparée, cherchait autre chose dans la profondeur du ciel étoilé que l'accomplissement du même désir ardent et obstiné. Elle joignit les mains sur son front, et elle sentit, comme elle ne l'avait jamais fait, la responsabilité de sa faute. En même temps, l'apaisement qui naît de toutes les certitudes, même de celles du malheur, la pénétrait. Sous le souffle de la nécessité, elle sentait un courage venir à elle, lentement, du fond de la nuit, de toute cette poussière d'or semée dans l'espace, comme si de chacun de ces points lumineux, un rayon encourageant descendait jusqu'à elle, et infiltrait dans ses veines une fiévreuse énergie. Avait-elle le droit de garantir plus longtemps son cœur d'un choc, d'ailleurs nécessaire, inévitable, dont demain le menacerait toujours? Elle se disait, « Si je ne parle pas, sans que je sache pourquoi, son cœur est perdu pour moi. »
Si je parle. »
Il sonnait 10 heures lorsqu'Élisabeth rentra. Elle vint se mettre à côté de sa mère, en face de la nuit pleine d'étoiles. Il était impossible de saisir l'expression de ce visage si cruellement variable. Mais le retour volontaire de la jeune fille constituait une sorte d'avance, une muette reconnaissance de tort. Elle restait silencieuse, comme si elle attendait de sa mère un mot, un signe pour l'aider, ainsi qu'à l'ordinaire, à franchir le premier pas difficile. La mère réfléchit quelques secondes, puis elle se décida. « Autrefois, quand je revenais le soir, nous restions ensemble, Élisabeth. Mais maintenant, tu... » Elle s'interrompit, saisit les longues mains juvéniles et acheva sourdement. « Ta pauvre mère, est-ce que tu ne l'aimes plus ?» Le cœur d'Élisabeth bondit. Elle hésita l'espace d'une seconde, puis, doucement, elle dégagea ses mains, détourna la tête et répondit froidement « Mais si ?» Il y eut un instant de silence pénible. « J'aurais tant voulu te rendre heureuse !» reprit enfin Madame Georges. « Mais je ne réussis pas. Une malédiction pèse sur mes efforts. Non, tu n'es pas heureuse. Si au moins je savais pourquoi, si tu parlais... Dis-le-moi ce soir, Élisabeth. Dis-le-moi pendant le silence de cette belle nuit. Qu'est-ce que tu as ? » Élisabeth devint nerveuse. « Pourquoi me persécuter avec toutes ces questions ? » dit-elle à voix basse. « Je n'ai rien. » Et elle alla s'asseoir au fond de la chambre, où son visage maladif dessina sur le velouté pourpre de la tapisserie un ovale très blanc. Madame Georges la suivit, et elle aussi s'assit. L'œil sombre d'Élisabeth, l'œil méfiant des mauvais jours, glissa sur elle. « Ne me regarde pas ainsi, Élisabeth. Si tu me regardes ainsi, je ne pourrai pas. Non. Il faut m'écouter avec ton cœur, comme quand tu étais toute petite et que tu venais te blottir contre moi, comme si jamais, jamais rien ne pourrait nous séparer. » Elle attendit un moment, sûre qu'Élisabeth dirait quelque chose, mais la jeune fille resta muette. La mère reprit la voix tremblante. « Et maintenant, j'ai peur de toi. Oui, j'ai peur. » En même temps, elle se leva, les joues pourpres, et elle retourna à la fenêtre, espérant vaguement qu'Élisabeth la suivrait. Mais la jeune fille resta clouée à sa place. Les paroles de sa mère la paralysaient d'anxiété et d'impatience. Elle n'éprouvait rien d'autre dans ce moment que le désir fébrile de tenir la vérité, quelle qu'elle fût, et de la retourner de tous côtés entre ses doigts soupçonneux, jusqu'à ce que fût apaisée cette âpre et obsédante envie. Madame Georges resta seule un moment en face de la belle nuit sereine, où naguère elle avait puisé l'héroïque courage de la confession. Puis lentement, elle vint se rasseoir à côté de sa fille. Elle balbutia. « C'est affreux ce que tu me forces à faire. » Et elle attendit de nouveau, espérant encore qu'Élisabeth parlerait, mais les lèvres pâles restaient obstinément fermées. Alors, d'une voix basse et rapide, la mère se décida. « L'autre jour, » dit-elle, les yeux fixés dehors sur le ciel profond, « tu m'as demandé, je n'ai pas compris ton intention, tu m'as demandé pourquoi tu t'appelais Élisabeth. Ta question, cette question... » Elle s'interrompit, effrayée, et reprit sourdement. « Élisabeth, si dans le passé j'avais eu un tort envers toi, un tort si grand que je ne pourrais jamais, jamais l'effacer. Pourrais-tu pardonner, toi ? Aurais-tu le courage de pardonner ? Non, non, ne réponds pas encore, pas encore. Il faut me laisser finir à présent, ou je ne pourrai plus. » Elle se recueillit quelques secondes, tâchant de dominer son agitation, et elle reprit du même ton sourd et saccadé. « Pourquoi tu t'appelles Élisabeth ? Tu n'as pas d'autre nom, comprends-tu ? Comprends-tu ?
Parle-moi, dis-moi quelque chose, mon enfant, mon enfant. » Il y eut dans l'obscurité quelques minutes de silence écrasant, comme si Élisabeth eût reçu sur le crâne un coup de massue qui la rendait stupide. Enfin, elle murmura faiblement « Maman, maman !» Elle n'avait pas eu un instant d'incertitude. Sans hésiter, son imagination, depuis si longtemps active autour de toutes les possibilités, lui présentait tout entière la décevante réalité. Mais soit que la certitude la détendît du long supplice de doutes et de soupçons qui avait troublé toute son enfance, soit qu'elle devina quelque chose du martyr d'amour qu'elle venait d'infliger à sa mère, elle se laissa prendre sans résistance dans les bras maternels, et elle se sentit enveloppée d'une caresse nerveuse, fébrile, tandis que son sang pauvre allait et venait dans ses veines, fouetté par une sensation nouvelle, au-dessous encore obscure, mais déjà irritant. « Élisabeth, ma chérie !» murmurait Madame Georges. « Mon enfant, ma petite Élisabeth bien-aimée, moi qui avais si peur de toi, si peur. Je ne croyais pas, vois-tu, que j'oserais jamais te parler. J'avais si peur, si j'avais pu croire, prévoir. » Mais elle s'arrêta. Entre elle et Élisabeth, les mots nécessaires à exprimer sa pensée avaient un son cru, insupportable. Elle ne pouvait pas débattre froidement le passé avec sa fille. Non, cela était impossible. Elle se tut, et sous l'attitude intime, une gêne glissa, très subtile, comme si des pensées incompatibles se heurtaient déjà dans la nuit, et que ce choc dut rester enveloppé de mystère. Elles se séparèrent brusquement quand Gertrude entra enfin avec de la lumière, et tout de suite, Élisabeth regarda le visage de sa mère. Il lui sembla différent de celui de tous les jours. Sa régulière beauté l'impressionna pour la première fois d'une façon pénible. Une envie de pleurer lui vint, lui serra la gorge à l'étrangler. Et voyant Gertrude s'attarder autour des volets, les fermer avec une lenteur agaçante, elle s'échappa. Madame Georges l'attendit jusqu'à minuit. Puis elle rentra chez elle, sans bruit. Chapitre 5. Élisabeth se réveilla de grand matin le jour suivant, et tout de suite, en entendant le pas assourdi de Gertrude aller et venir dans l'appartement, le malaise indéfini qui l'avait saisi au moment où elle ouvrait les paupières se précisa. Toute la scène de la veille repassa dans son esprit, y réveillant les mêmes sensations obscures et troublantes. Elle resta longtemps les yeux fixés devant elle, regardant sur la muraille les filets de lumière que le soleil filtrait à travers les lames des volets. « C'est pour cela, pensait-elle, que cette servante me hait. » Et reprenant ses souvenirs aussi loin qu'elle pouvait les réveiller, pour en extraire une saveur nouvelle très amère, elle rêva aux choses passées. Toute sa vie, avec ses nombreux coins d'ombre et de mystère, s'éclairait enfin d'une lumière éclatante, et elle trouvait une sorte de jouissance âpre à refaire en plein jour le long chemin parcouru dans la nuit, avec ses tâtonnements inquiets d'enfant soupçonneuse. Elle aurait voulu ne pas se lever, ne plus jamais bouger, rester indéfiniment à cette même place, à remuer ces choses mortes, d'où s'échappait un parfum malsain, si pénétrant qu'elle sentait sa tête se troubler et son cœur se soulever. De temps en temps, elle répétait machinalement « C'est pour cela que cette servante me hait. » Et tout à coup, prise d'un désir subit et pressant de voir de près le visage revêche de Gertrude, elle se leva à la hâte et s'habilla fiévreusement. Au moment où elle ouvrit ses volets, un grand soleil blanc fit irruption dans sa chambre, et elle resta un moment fascinée par la lumière. Puis elle se dirigea vers la porte. En sortant précipitamment, elle alla se heurter à une autre forme noire, immobile, qui guettait derrière la porte fermée. La mère s'empara aussitôt de la longue silhouette juvénile, elle l'enlaça de ses deux bras, l'emprisonna. « Élisabeth, mon enfant, ma chérie !» Quelque chose de brûlant, une sensation de honte, presque d'horreur, courut dans les veines au sang pauvre d'Élisabeth. Une soudaine répulsion pour le mensonge que les avances caressantes de sa mère exigeaient d'elle la prit d'assaut, sans lui laisser le temps de se reconnaître. Elle se raidit instinctivement entre les bras tendus, enveloppant, résista, recula. Madame Georges, effrayée, l'attira de force contre son cœur, et elle murmura « Oh non, non !» Elle s'était crue prête à toutes les éventualités. Au pire, elle croyait s'être armée pour toutes les batailles. Mais trembler, pâlir, rougir sous le regard froid d'Élisabeth, elle n'avait pas prévu la possibilité de cet atroce supplice. Elle tint un moment la forme récalcitrante serrée dans ses bras, cherchant avec angoisse, sans le trouver, un mot, le mot qu'il fallait dire pour conjurer le danger de cette minute unique dont les graves conséquences pouvaient compromettre tout l'avenir. Mais il y avait dans l'attitude d'Élisabeth quelque chose de si glaçant qu'une allusion, même lointaine, aux confidences de la veille lui fut impossible. Au bout de quelques secondes de vaines recherches, elle libéra Élisabeth de son étreinte. Dès qu'elle se sentit libre, la jeune fille se dirigea, sans rien dire, vers le salon, où le soleil du matin entrait à flots par les deux fenêtres. Il y eut, dans la chambre pleine de la lumière rose qui empourprait le levant, un moment de silence très lourd. Puis, avec un sourire pénible, la mère articula « As-tu vu ce beau soleil ? Il fait frais ce matin. Hier, on étouffait. » « Oui, » dit Élisabeth à voix basse, en regardant dehors, très loin, dans l'atmosphère bleuâtre et gaie du grand matin. « L'orage a fait beaucoup de bien. On dirait que l'air a été lavé. » Et la prison, aux murs infranchissables, qui allait les vouer aux banalités de l'existence, ferma sans bruit autour d'elle sa haute cloison sans issue. Toute la longue journée, au travers des ordinaires péripéties de la vie quotidienne, elles se heurtèrent sans cesse à l'invisible mais solide barrière. Vers la fin de l'après-midi, enfin, épuisée par le mutisme obstiné d'Élisabeth, Madame Georges lui proposa une sortie. « Veux-tu ? Nous irons jusqu'à la rivière. Nous nous promènerons un moment le long de l'eau, et puis nous reviendrons. » La jeune fille courut mettre son chapeau. Peut-être, au milieu du va-et-vient des rues, de la vie bruyante du dehors, l'obsession poignante qui ne l'avait pas quittée une seconde pendant cette interminable journée s'allégerait-elle. Peut-être son cœur inerte lui dicterait-il enfin les paroles qu'elle n'avait pas pu jusque-là lui arracher. Elles marchèrent une demi-heure devant elle, sans parler, et peu à peu, quelque chose d'obscur se révolta dans l'âme d'Élisabeth, grandit, devint intolérable. Elle dit enfin, les dents serrées, « Comme on te regarde, rentrons !» Elles rebroussèrent chemin, toujours en silence, et en attendant que Gertrude répondît à leur coup de sonnette, les yeux d'Élisabeth tombèrent sur la plaque de cuivre jaune étincelante. Elle y lut les trois mots gravés en noir tout au long. « Madame, veuve, Georges. » Son cœur se serra. Ces quelques syllabes représentaient un vol d'honorabilité fait sciemment depuis sa naissance. C'était une hypocrisie, une injuste appropriation d'un bien volé. Depuis qu'elle était au monde, il n'y avait eu autour d'elle que fausseté, volontaire du prix, mensonge. Ce soir-là, au moment de se séparer de sa fille pour la nuit, Madame Georges la prit de nouveau dans ses bras et l'interrogea de tout près, suppliante.
« Élisabeth !»«
Ne me dis rien !» balbutia la jeune fille sourdement.
« Pas maintenant. Oh non, ne parlons pas !»
Et elle se sauva. Restée seule, Madame Georges alla appliquer son front à la vitre, et elle resta longtemps abîmée dans ses pensées. Elle avait plus souffert pendant cette journée de 12 heures que durant la longue suite d'années laborieuses où elle gagnait son pain au jour le jour. Et ce n'était qu'un premier pas fait dans un chemin nouveau. Tous ceux qui allaient suivre s'orienteraient du même côté.
« Et pourtant, murmura-t-elle enfin passionnément, tu es à moi, tu m'appartiens. Tu ne peux pas, quoi que tu fasses, me dépouiller du droit de t'aimer. « Cela, non !»
Chapitre 6. À quelques jours de là, lorsque le docteur grisonnant reparut, il fut frappé du mieux rapide d'Élisabeth. La pâleur mate des joues s'était nuancée de rose, et la tension du visage délicat avait disparu. Il murmura « À la bonne heure !» Et satisfait, il regarda Madame Georges. Sûr d'avoir, par ses adroits pronostics, précipité quelques décisions nécessaires. Cassé à temps une injuste résistance, mais il resta stupéfait de l'altération des traits de la mère. Les paupières lourdes, boursouflées, le teint bilieux, le regard vague, inquiet, Madame Georges était méconnaissable. En quelques jours, cette femme avait pris un autre âge. Le docteur resta un instant embarrassé, passant et repassant la main sur ses cheveux courts et drus.
« Ce qu'il vous faut à présent à toutes les deux, » dit-il enfin, « c'est un autre air, un autre séjour. Rien ne déracine les malaises de jeunesse comme un changement de scène. Emmenez mademoiselle à X, ce n'est pas loin, mais c'est déjà la campagne. Elle y verra fleurir les cerisiers. » Cela lui renouvellera les idées. »
Il attendit en vain un mot d'approbation, un signe d'assentiment, un encouragement quelconque qui l'engageât à poursuivre l'entretien. Mais Élisabeth et sa mère écoutèrent sa proposition sans souffler mot.
« Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir entre cette mère et cette fille ? » pensa-t-il.
« C'est bizarre !»
Rapidement, il posa quelques questions à Élisabeth, indiqua un régime à suivre à la campagne, donna quelques conseils sommaires, puis, ne trouvant aucune raison de s'attarder davantage, il prit congé.
« C'est vrai, » dit Madame Georges rêveuse dès qu'il eut disparu, « tu as besoin de distraction. Je n'y pensais pas, moi. Je ne pense plus à rien. »
Élisabeth ne répondit pas. Les caprices dont elle tourmentait jadis sa mère se figeaient de plus en plus en un éloignement persistant, sans cesse irritée par quelques banalités de la vie quotidienne. Chaque fois que Gertrude appelait sa mère « Madame », elle tressaillait. Ce mensonge que cette femme savait être un mensonge, cette complicité sourde que sa mère avait toujours acceptée comme une chose naturelle, choquait son respect de la vérité, sa droiture, torturait son orgueil. D'autres fois, elle rougissait d'une confusion plus humiliante encore en écoutant les efforts maladroits de Madame Georges pour dérouler la curiosité incommode de la locataire d'en haut, dont les visites étaient devenues presque quotidiennes. Et dans la rue, tous les jours davantage, l'attention éveillée à côté d'elle par sa mère l'exaspérait. Tous les jours, elle répétait ces mots qui déchiraient l'oreille maternelle.
« On te regarde trop, rentrons !»
Un jour qu'elles étaient restées vis-à-vis l'une de l'autre du matin au soir, presque muettes, la mère, à bout de courage, se leva. Elle sentait le masque de son visage se détacher. Elle ne voulait pas offrir, à nu, à l'œil froid d'Élisabeth, le spectacle de sa désolation. Elle dit, sans la regarder,
« J'ai envie d'aller jusque chez Madame Musso. Son mari passe toutes ses vacances à X. Peut-être aura-t-il quelques conseils utiles à me donner. Je serai de retour dans une heure. »
Élisabeth se leva vivement. Avec une chaleur d'accent inaccoutumée, elle s'écria « Moi aussi, j'irai !»
Au nom de Madame Musso, 1000 piqûres rétrospectives avaient irrité sa mémoire. Une mauvaise curiosité l'avait prise brusquement. De savoir si, en l'obsédant jadis de ses investigations indiscrètes, l'institutrice connaissait la honte de sa mère et la tourmentait à plaisir, ou si elle ne faisait que soupçonner la vérité. Les deux femmes traversèrent sans parler les rues populeuses. Madame Georges marchait lentement. Sentant s'agiter sous le silence morne de sa fille des pensées troubles, toujours les mêmes, elle regrettait la démarche inutile imaginée pour fuir le lourd tête-à-tête muet. Elle avait gardé de sa dernière entrevue avec l'institutrice un arrière-goût d'hostilité, et la présence d'Élisabeth l'inquiétait. Dès qu'elle se trouva dans l'intérieur étranger, sous le regard des petits yeux gris perçants, son malaise s'accentua. Elle expliqua fébrilement le but de sa visite. « Élisabeth a besoin de changer d'air. Je la trouve trop pâle. Nous allons à X. » Questionnée, Madame Musso recueillit ses souvenirs. En effet, son mari était allé plus d'une fois à X. Malheureusement, il était absent pour toute la journée. Il y avait bon air dans cette localité champêtre. Beaucoup d'arbres, surtout des cerisiers, beaucoup de cerisiers. Elle réfléchit un moment, puis elle appela « André !» Et elle ajouta « Justement, je parlais de ces dames à mon neveu. » Madame Georges se souvint vaguement avoir entendu l'institutrice mentionner l'existence d'un neveu qu'elle élevait. Elle fut surprise de voir entrer un homme fait, aux manières aisées et souriantes. Interrogé, André dit à son tour ce qu'il savait sur X. C'était tout à fait la campagne, il y avait beaucoup de cerisiers. Il y eut un silence. Obsédée par le regard persistant d'André, Madame Georges laissait flotter devant elle des yeux vagues. « Mais qu'a donc Élisabeth ? » demanda Madame Musso. « Je la trouve trop pâle, » répéta Madame Georges. « Elle a grandi trop vite. Elle a besoin d'un changement d'air et de scène. » André tourna les yeux vers la jeune fille. C'était la première fois qu'il la regardait depuis qu'elle était entrée, sans bruit, sur les talons de sa mère. Avec sa figure caractéristique où se lisait quelque chose d'ardent, cette grande fille pâle, dont sa tante Agathe l'entretenait si souvent, lui sembla encore plus laide qu'il ne s'y attendait. Il s'amusa un moment à voir, sous la peau blanche nacrée, les allées et venues rapides du sang, attribuant cette impressionnabilité maladive à des causes très éloignées de la vérité. Puis, quand il eut épuisé ce divertissement, son attention retourna à Madame Georges. Celle-ci se leva aussitôt, nerveuse, pressée de fuir l'œil persistant de cet étranger, devinant, sans même avoir jeté les yeux sur Élisabeth, que la jeune fille, retranchée dans son silence, observait et souffrait. Sans répondre aux exclamations de Madame Musso, que cette prompte retraite désappointait, sans avoir l'air de les entendre, Madame Georges se dirigea vers la porte, résolue. « Une autre fois, » murmura-t-elle enfin, « une autre fois, nous reviendrons. »
Madame Musso arrêta Élisabeth au moment où elle allait franchir le seuil. « Comme cette enfant s'est développée, elle est plus grande que vous, madame. Elle ne ressemble à personne. » La mère et la fille se retrouvèrent dans la rue et elles marchèrent côte à côte, muettes, jusqu'à ce qu'enfin une bouffée de désespoir montât au cœur de Madame Georges et le fit éclater. Elle murmura sourdement « Tu me fais trop souffrir, Élisabeth. Si tu parlais, au moins, tout vaudrait mieux que ce cruel silence. » Élisabeth pressa le pas. « Oh ! » s'écria-t-elle, « dans la rue !» Pendant la courte visite qu'elle venait de faire, elle était arrivée à une certitude. Elle n'aurait pas su dire exactement d'où elle tirait sa conviction. mais elle l'avait acquise, inébranlable. Son ancienne institutrice connaissait le passé. Avec quelle obstination le jeune homme lui-même n'avait-il pas dévisagé sa mère? Elle eut, d'une façon aiguë, la sensation de la destinée fermée et humiliante qu'elle devait à sa mère. Que ferait l'échange de millions de paroles pour effacer un fait ineffaçable? Madame Georges la rejoignit, se mit à son pas, mais sans renouer l'entretien. Que dire? Quels mots pourrait-elle inventer pour peser sur le jugement d'Élisabeth? Comment faire saisir à cette âme neuve, ignorante de toutes les complications de la vie, les nuances multiples qui font du bien et du mal un alliage complexe, difficile à définir exactement? Il valait mieux se taire en abandonnant autant ce travail délicat. Il fallait laisser cet esprit, vide d'expérience, se développer seul, arriver lentement à l'indulgence, comme les fruits de la terre arrivent à maturité à travers une longue succession de nuits et de jours, toute une alternance de lumière et d'ombre. Les procédés de la nature n'étaient-ils pas partout les mêmes? Elle songea un moment, très absorbée, cherchant à se convaincre de l'efficacité de ce travail intérieur, à y croire assez pour puiser dans cette foi la résignation et la confiance. Puis elle soupira profondément. Quoi qu'elle fît pour la retenir, l'illusion flatteuse lui échappait. La réalité reprenait sa place, bloc immobile que les mille petites dents rongeantes des heures ne parviendraient pas à entamer d'une seule égratignure. À quelques jours de là, Élisabeth et sa mère partaient pour X, et la locataire d'en haut, descendue pour prendre congé, s'attardait un moment sur le seuil, cherchant à continuer l'entretien avec Gertrude. « C'est singulier, » disait-elle. « À présent, on dirait que c'est la mère qui s'alanguit. Une si belle dame. C'est dommage. Avez-vous vu? Elle a des deux côtés près des tempes des cheveux blancs. C'est la première fois que cela me frappe. Deux mèches tout à fait blanches sur les tempes. »
« Je ne vois que ceux qui me regardent, » dit Gertrude d'un ton bref.
Et maussade, elle tourna sur ses talons, rentra et ferma la porte derrière elle.